Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
R. Payet, c'est le surnom que les policiers ont donné à Pascal Payet, une figure du grand banditisme. R. Payet parce que cet homme est impliqué dans non pas une, ni deux, mais trois évasions spectaculaires, dont deux fois de la même prison, et toutes par le même moyen, l'hélico.
J'avais l'hélicoptère devant, à quoi, à 50 mètres. Et on est là, et totalement impuissant, on n'a rien compris.
Pascal Payet, c'est le type même du beau mec, comme disent les flics dans leur jargon. Un physique d'acteur, mais d'abord un truand de parole avec du cran.
Payet s'est fait la belle deux fois. Mais ce qu'il a fait entrer dans la légende, c'est qu'une fois dehors, il a pris le risque d'aller chercher ses complices en prison. Parce qu'il le leur avait promis.
Au moment où on décolle et que c'est réussi, franchement, c'est un sentiment de joie et de bonheur qu'on connaît rarement dans une vie.
Réglo avec ses complices, Payet l'a aussi été avec les policiers. Quand il est tombé, il a avoué.
Quand Payet me voit, il dit encore vous, quoi. Et je lui dis, ben oui, il fallait partir ailleurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu reviens ici, quoi ? Qu'est-ce que tu reviens ici ?
Mais l'homme avait du sang sur les mains et un passé de fugitif. La pénitentiaire le lui a fait payer très cher. Pascal Payet, c'est aussi l'histoire d'un truand qui voulait changer la prison.
Janvier 1999. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est 23h et une grosse opération de police est en cours. Plus de 30 policiers attendent une femme en provenance de Montpellier. La petite amie de Pascal Payet, un braqueur multirécidiviste. Recherché par toutes les polices de France, le fugitif sera peut-être là pour l'accueillir.
Christophe Molmy, de la BRI de Marseille.
On n'a pas beaucoup d'informations, on ne sait pas de quelle manière il va arriver, on ne sait pas du tout avec qui il sera.
Le commandant Yves Lamacchia, de la BRB de Marseille, est aussi sur le pont.
Nous sommes très nombreux. Il y a les collègues qui sont dans l'avion, venant de Montpellier. Il y a les collègues de l'OCRB qui se sont donc éparpillés dans l'aérogare.
Donc tout le monde se met en place peut-être une heure avant l'arrivée de l'avion, de façon à se fondre le plus facilement possible dans le flux des passagers, et on attend.
C'est Payet qui est dans le viseur, mais les policiers aimeraient bien faire d'une pierre deux coups, et serrer aussi son complice de toujours, Éric Alboréo.
Le commissaire Vincent Le Béguec, chef de la BRB de Marseille.
C'est des individus qui n'ont pas été vus de visu par les policiers depuis pas mal de mois. On sait aussi qu'ils peuvent se grimer, hein. Donc il faut le temps de l'identification certaine. Notre objectif était très clair, c'était d'identifier les deux individus présents s'ils étaient sur la zone.
À 23h15, la fiancée de Payet, que la BRB filoche depuis Montpellier, est enfin annoncée.
Elle rentre dans l'aérogare et a des collègues en piéton, voit Payet. En fait, il le repère un tout petit peu avant, il l'annonce à la radio et on sait que Payet est là.
Payet repéré, reste Alboréo. Les policiers gardent leur distance.
Les collègues avaient surtout comme directive d'être là pour ne pas se faire, comme on dit dans le jargon, détrancher si jamais la fille était serrée de trop près par des collègues.
Et autant que je me souvienne, à un moment, l'un d'entre eux a un doute sur un véhicule qui est garé à l'extérieur, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas.
C'était la nuit, il faisait sombre, et on ne pouvait pas s'approcher sans attirer l'attention de manière très, très proche. On pressentait bien que c'était Alborio qui était dans le véhicule et qui attendait, mais on n'en était pas certain.
J'y vais. Et en effet, en passant à côté de la Golf, je vois Alborio qui est très méfiant. Et il est là, donc là maintenant, il faut essayer d'interpeller.
Le délai entre le moment où le couple sort de l'aérogare et le moment où ils montent dans le véhicule est très court. C'est pour cette raison-là que je prends la décision de ne pas interpeller sur place parce que les conditions ne sont pas réunies et d'engager une filature sur le véhicule qui quitte à ce moment-là l'aéroport de Roissy.
Payet prend le volant, sa copine est Alborio à ses côtés, direction Paris.
À la vitesse où elle va, et en plus de nuit, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de capter les phares de la voiture qui est devant, pas les lâcher, parce qu'il suffit d'un chassé-croisé entre deux, trois véhicules, un camion au milieu, et ça y est, on a perdu. Hein. Et il ne faut pas les coller non plus, parce que si vous arrivez trop derrière, ils le voient. Payet qui conduisait ralenti en arrivant aux portes de Paris. Et il a grenouillé un petit peu, et donc on finit par se retrouver à un feu rouge. Et là, un des véhicules est devant du dispositif, la Golf est derrière, et nous on est tout autour. Et il y a un moment de flottement, et le feu va repasser au vert. Et puis le collègue de l'OCRB dit « bon, il faut y aller », il lance l'interpellation. On sort de voiture, on se précipite, l'arme à la main. Et on arrive en groupe autour du véhicule. Payet, il a un instinct animal, et il mesure très bien ses réactions. Il reste très calme, mais il a la main au-dessus d'une arme qui est posée à côté du levier de vitesse. Et il observe, et il se passe une seconde ou deux, c'est très long. Quand il a compris qu'il était coincé, il a levé la main. Donc là, on l'a sorti, la jeune fille aussi.
La jeune fille a eu la peur de sa vie. Je me souviendrai toujours de la pâleur de cette jeune Montpelliéraine qui, assurément, n'avait jamais connu une telle frayeur.
Payet et Alborio n'opposent aucune résistance. Mais quand les policiers examinent l'arme de Payet, ils ont une sueur froide.
Le percuteur du Glock, c'était un Glock, avait été limé de façon à tirer en rafale. Donc il aurait suffi de tirer, vider le chargeur autour de lui et avancer. Et il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça dégénère. Je pense que si la jeune fille n'avait pas été dans la voiture, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière.
Dominique, alors parlez-nous de Pascal Payet et d'Éric Alborio. Qui sont ces deux hommes ?
Alors, des beaux mecs, comme dit la police. Hein. Payet et Alborio, ce sont des figures du grand banditisme, catégorie braqueur. Des gars qui ont du cran, de la détermination quand ils montent au braquage, mais qui sont aussi capables d'appliquer les codes d'honneur du grand banditisme.
Payet, c'est lui. Hein.
Ouais, Payet, c'est lui. Hein. Au moment où il est arrêté, il a 36 ans. Il est né en 1963 à Montpellier. Études assez rapides hein, chez des curés à Lyon. Et puis en quatrième, il décroche, il va faire de la soudure, de la mécanique, il va faire des conneries. Il vole sa première voiture à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il prend un an de prison. En 1988, il rencontre celle qui va devenir la mère de ses enfants. Mais 1988, judiciairement, c'est aussi l'année de sa première condamnation lourde, 5 ans de prison pour vol aggravé de voiture. Ensuite, il sort de prison. Parcours classique hein, du bandit, des petits braquages à Lyon, il descend à Marseille et à Marseille, il rencontre celui qui va devenir son complice à la vie, à la mort, qui s'appelle Éric Alborio.
Complice, vous avez dit, donc braqueur comme lui ?
Alborio, c'est pas seulement un braqueur. Il était condamné à 10 ans de prison pour une affaire grave, une tentative de meurtre. En fait, il a tenté de tuer un type qui avait importuné sa copine. Il sort de prison et là, il rencontre Florence. Florence, c'est la copine de Payet. Et c'est elle qui va
les mettre en relation.
Absolument, qui va les faire se rencontrer et devenir un vrai binôme de braqueurs.
Et alors, ils braquent quoi, tous les deux ?
Alors, ils braquent des banques, des bijouteries, mais toujours sans effusion de sang. Et en 93, hein, ils sont arrêtés tous les deux et condamnés à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ils étaient en train de préparer un gros coup sur une bijouterie prison où ils rencontrent Michel Valero. Et en 97, les trois hommes sortent de prison. Payet et Alboreo disent « C'est bon, les conneries, on arrête ». Ils montent un petit business de pneus, mais on ne s'improvise pas comme ça, chef d'entreprise. Ça ne marche pas. Hein. Et à ce moment-là, on leur propose un gros coup. Ils disent d'abord non, mais la tentation est trop forte.
Ouais, ils replongent.
Salon de Provence, le 20 novembre 1997. Un an avant l'interpellation. Comme chaque semaine, un fourgon blindé se présente devant la Banque de France, bourré de billets. 8 millions de francs. Mais ce jour-là, se souvient Michel Valero, ils étaient trois à l'attendre. En embuscade. Payet, Alboreo et lui.
Michel Valero a accepté de témoigner, il se souvient.
C'est un jour où il y a de très gros orages. Il y a une pluie très forte. Les convoyeurs montent en courant dans le sas, ce qui change un peu nos plans.
C'est Pascal Payet qui leur emboîte le pas le premier et qui les braque.
Moi, je suis derrière le deuxième convoyeur qui tient un sac dans chaque main, donc qui a les mêmes prises. Et donc, on voit que l'opération débute bien puisqu'il n'y a pas de panique d'aucun côté, quoi. Et à ce moment-là, j'entends la chute d'un sac et je vois que le convoyeur dégaine, tire sur Pascal. Pascal, en tombant, riposte. Il lui lâche une rafale de Kalachnikov qui atteint le convoyeur. Les ricochets me blessent, ainsi que Calboreo qui est à un mètre à côté de moi.
C'est la panique. Les trois braqueurs blessés prennent la fuite. Plus question de prendre l'oseille.
Je m'aperçois que Pascal s'est évanoui. J'arrive à le hisser à l'arrière de la voiture. Et on démarre dans la rue pour prendre la fuite un peu au hasard. On est tous les trois en sale état puisque tous les trois blessés. Bon, moi, je m'évanouis un peu quelques minutes au moment du départ. Payet était inconscient derrière et Alboreo conduit difficilement avec une grosse blessure à la cuisse. Et on décide d'aller en banlieue aixoise chez un ami en espérant qu'il soit chez lui.
Les trois hommes débarquent chez un pote à Vitrolles. Payet a le poumon perforé, le sang lui sort par la bouche. La bande appelle un infirmier, la solidarité s'organise. Le soir même, Payet reçoit une transfusion. Mais l'infirmier reste inquiet.
Il dit qu'il faut absolument qu'il aille à l'hôpital. Pascal dit non, à l'hôpital, je ne veux pas y aller, j'y vais pas. Il nous ausculte. Alboreo a une grosse plaie à la cuisse parce que c'est la balle de Kalachnikov qui lui a arraché pratiquement la surface d'une soucoupe de café. Il voit que moi, c'est des blessures bénignes, je perds du sang sans plus. Donc, il lui pose un bandage et on se repose sur place.
Braquage meurtrier aujourd'hui à Salon de Provence. Un convoyeur de fonds a été tué dans l'attaque manquée d'un fourgon blindé devant la succursale de la Banque de France.
Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite sans rien emporter.
Le convoyeur tué s'appelait Richard Caceres. Il avait 48 ans. Il laisse une épouse et deux enfants.
L'un de ses enfants, Bastien Caceres, témoigne.
Je suis en cours d'anglais. Il vient me chercher en classe. Et je reçois un coup de téléphone 10 minutes après. Qui m'apprend d'abord, en premier lieu, le braquage de fourgon blindé. Et puis après, le décès de mon papa. J'avais 20 ans. 20 ans quand il y a eu le braquage où mon papa est décédé.
C'est la BRB de Marseille, la brigade de répression du banditisme, qui est saisie de l'enquête.
Le commissaire Vincent Le Béguec, chef de la BRB de Marseille, est sur place.
Les constatations sont pas simples. Lorsqu'on arrive sur place, c'est la panique, hein, forcément. Il y a un convoyeur dont le corps gît juste dans l'entrée de la Banque de France. Immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de douilles qui sont présentes sur le sol. Assez rapidement, on apprend qu'il y a eu des individus au nombre de deux, de trois, sont rentrés dans la cour en profitant d'une porte dérobée d'une villa attenante.
Le commandant René Copano aussi.
Et bien sûr, compte tenu qu'ils sont blessés, assez sérieusement, ils ont laissé du sang sur la porte. Le spécialiste de la police technique et scientifique a idée de faire démonter la porte et de la confier au labo. C'est une époque où on travaille déjà sur l'ADN. Bon, le fichier national FNAEG n'existe pas, mais on travaille sur l'ADN. Et ainsi, le labo va extraire trois profils génétiques. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a.
À l'évêché, le siège de la police marseillaise, tout le monde s'y colle. Pendant des mois. Et un jour, un indice rencarde enfin les policiers.
C'est un renseignement qui nous désigne responsable d'un débit de boisson de l'agglomération marseillaise comme ayant possiblement aidé dans leur fuite les malfaiteurs blessés.
Le lieu de fréquentation, c'était un bar situé à Marseille, dans le 4e arrondissement, près du boulevard Longchamp.
Du coup, les flics ne vont plus lâcher le bistrot et son patron.
On place des écoutes téléphoniques, naturellement. On le surveille physiquement pour voir quelles sont ses relations. Donc cette phase de surveillance dure plusieurs mois.
Et à l'issue de cette opération, on va avoir des pistes qui vont s'ouvrir. Il est possible que parmi les braqueurs, il y ait Pascal Payet, Éric Albouréau, Serge Hérac et Michel Valero. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, mais c'est déjà pas mal. Valero, Payet, Albouréau n'appartiennent pas au milieu traditionnel. Ils ne sont pas dans des grosses équipes qui tiennent tel domaine. Hein, bon. Ce sont un peu des électrons libres du banditisme. Bon, ils sont craints. Ils sont craints parce que on sait ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire.
Le commandant Pierre Folach de la BRB de Marseille.
C'était une équipe que mes collègues appelaient les scieurs de barreaux. Sieurs de barreaux, parce que souvent, ils sciaient les barreaux des fenêtres des agences bancaires et ils attendaient que les employés arrivent, voire la femme de ménage. Ils braquaient tout le monde, ils se faisaient ouvrir les coffres. Ils en ont fait pas mal.
Mais les trois hommes restent introuvables, malgré la surveillance de leurs proches. Quand enfin, en novembre 1999, 2 ans après le braquage, quelqu'un cafarde. Michel Valero serait à Sainte-Maxime.
Quand je suis arrêté, en fait, on me parle bien sûr tout de suite du casse de la Banque de France de Salon. Bon, je nie les faits au début et mon ADN est pris sans mon consentement. Mais au bout de 4-5 heures, il m'annonce que le sang qui a été retrouvé dans la cour d'honneur, c'est le mien. Donc à partir de là, je m'explique, sans dire que... qui sont mes complices, mais bon, je m'explique un peu sur les faits en disant que la mort malheureuse du convoyeur, c'était vraiment pas programmé.
Valero écroué, reste à pincer ses deux acolytes, Payet et Albouréau. Et cette fois, ce n'est pas un indice qui met les policiers sur sa piste, mais le travail à l'ancienne, sur les fadettes.
C'est une époque où les opérateurs, lorsque, en réponse à nos réquisitions, ils ne nous adressent pas des fichiers numérisés ou sur des disquettes, et tout comme ça. Ils nous envoient des listings papier. Ce qui veut dire qu'il y a 3 gars du groupe dont le boulot, depuis plusieurs mois, c'est de rentrer les numéros. Comme ça. On est excédé. Ça fait des mois qu'on travaille sur des numéros. C'est presque en aveugle. Et qu'est-ce que je fais? J'en ai marre de listing.
et j'épingle les listings sur les murs du bureau. Je les agrafe parce que j'ai l'impression de mieux y voir. Et parmi la masse des numéros, je vois un numéro filaire, on l'identifie, c'est le numéro d'une fille à Montpellier, on branche le numéro, et là, en quelques heures, on a rattrapé le retard, on est sur Payet et sur Albo. Bon, ils ont des pseudos, hein. Ils se font appeler l'un, il se fait appeler Joël, l'autre, il a trouvé que Eric, c'était bien, donc il a gardé son prénom. Voilà, bon. Et à ce moment-là, c'est allé très vite.
Voilà pourquoi Roissy grouillait de policiers le 23 janvier 1999. La fin d'une cavale après un braquage raté et la mort d'un convoyeur de fonds. Le lendemain de leur arrestation à Roissy, après une nuit à l'office de répression du crime organisé à Nanterre, Pascal Payet et Éric Alboréo s'envolent pour Marseille sous bonne escorte.
Lorsqu'ils sortent de l'avion, ils sont tendus, hein. Ils sont tendus. Et ils arrivent à la BRB sur le coup de 11h du matin. Hein. Des collègues qui étaient restés au bureau avaient préparé une espèce de buffet, quoi, parce qu'il fallait bien se restaurer. Hein. Et je me souviens qu'on leur a proposé de manger avec nous, mais pas autour du buffet, donc dans les bureaux. Hein. Bon, ils avaient quand même le menotte, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais la garde à vue à Marseille a commencé par « on mange ». On mange et puis on parlera après.
L'atmosphère est détendue, mais rien ne garantit que Payet et Alboréo se mettront à table.
Payet, on se connaissait, Alboréo aussi. Mais Payet est plus bavard, plus loquace, bon, malgré que ce soit quelqu'un de particulièrement dangereux. Hein. Et très vite, il a compris, il m'a dit « je suis free ». J'ai dit « ben oui, c'est pas le choix, il y a de l'ADN ». Et il me dit « qu'est-ce que tu en penses ?» Il me dit « tu crois vraiment que j'ai voulu tuer ce mec ?» J'ai dit « non, je crois que tu es venu prendre les sacs. » Et ça a mal tourné. Il me dit « bon, tu penses que c'est un accident ?» J'ai dit « bon, je ne peux pas t'assurer que ce soit un accident, mais ça, j'ai pas le sentiment que vous êtes venu pour tuer. La priorité, c'était de prendre les sacs. » Ah, il me dit « donc, tu penses que le juge aura le même point de vue ?» J'ai dit « moi, je pense. » Il me dit « ben alors, je fais des aveux. » Et il a fait des aveux totaux, des aveux complets. Sur sa participation.
Il dit que lorsque le convoyeur a été braqué, celui-ci a sorti son arme et a tiré. Il reçoit une balle et concomitamment, lui, sous la douleur, il rafale puisqu'il a le doigt sur la détente de sa Kalachnikov. Il rafale non seulement le convoyeur, mais ses deux comparses. Sur la suite, il ne dit rien. Sur qui les a hébergés, qui les a soignés, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il parle uniquement de son rôle sur les faits et il les a regrettés tout de suite, ce qui est pas courant chez ce genre de personnes.
Réglo, Pascal Payet. Mais du côté d'Éric Alboréo, c'est une autre paire de manches. Un mur. Alors, les policiers rapprochent les deux gars.
Pascal Payet va dire à Alboréo, « Éric, vas-y, tu peux tout avouer. J'ai avoué, il n'y a aucun problème. » Alboréo va nous faire une concession. Il va nous dire, « Bon, ça me gêne d'avouer ici, mais par contre, je m'engage à passer des aveux devant le juge en présence de mon avocat. » C'est assez rare dans l'histoire du banditisme marseillais.
Avec l'arrestation deux mois plus tôt de Michel Valero, l'équipe du CAS de la Banque de France est maintenant sous les verrous. Plus d'un an et demi après les faits, la famille de Gérard Casselès, le convoyeur qui a été tué, respire enfin.
C'est quelque chose de magique, parce que c'est ce moment qu'on attend depuis... Depuis longtemps, jamais j'aurais imaginé, ou du moins très difficilement, de vivre sans savoir qui a tué mon père.
Dominique, est-ce que les policiers savent maintenant ce qui s'est passé après le braquage, pendant la cavale.
Oui, Rachid. Et la suite est à peine croyable. Elle est digne d'un film. Vous vous souvenez qu'après le braquage, les trois hommes ont trouvé refuge dans un appartement à Vitrolles. Ils sont dans un sale état, surtout Payet. Hein. Il est entre la vie et la mort. Et c'est Michel Valero qui trouve la solution. Il appelle ses vieux contacts à Lyon et il trouve un chirurgien qui est prêt à les opérer dans un hôpital. Il fait l'ambulancier, direction l'hôpital de Lyon.
Un chirurgien qui opère des malfaiteurs recherchés en douce dans un hôpital. C'est complètement fou.
Et Payet va être le premier opéré parce qu'il a un poumon plein d'eau, une blessure à un rein, il a fait une hémorragie. Et ce chirurgien va incontestablement, lui, sauver la vie. Dans le même temps, il opère Éric Alboréo, qui a reçu une mauvaise balle de kalach, qui a provoqué un arrachement musculaire. Et le chirurgien lui fait plusieurs greffes.
Et pendant le temps des soins, j'imagine qu'ils ne sont plus à l'hôpital, mais ils restent à Lyon ?
Ils vont rester enfermés. Valero, c'est celui qui est le moins blessé, il a reçu des éclats de balles dans une jambe qu'il a gardée d'ailleurs. Au bout de quelques semaines, il va sortir pour s'occuper de la logistique parce qu'il faut bien bouffer. Et au bout de 3 mois, ils sont tous les trois sur pied, impeccables. Ils prennent une voiture, direction la Suisse.
Et la Suisse, c'est trop tentant, ils reprennent les braquages.
La Suisse, c'est le coffre-fort. Ils reprennent les braquages et ils se font du pognon.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour. C'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.